France Musique. Musicopolis. Bruxelles, 1650, le premier opéra. L'archiduc Léopold Guillaume de Habsbourg est un passionné d'opéra. Je dirais même plus un aficionado. Bon, j'avoue, c'est légèrement anachronique de ma part de le traiter d'aficionado d'opéra, alors que les représentations sont encore rarissimes à son époque, même dans les cours les plus fastueuses. Mais ça n'empêche. Imaginez un peu, il est capable de faire construire dans son palais un théâtre spécialement pour l'opéra et de dépenser des sommes fantastiques pour une représentation qui va mobiliser 450 personnes. Mais reprenons du début. Il s'agit donc de l'archiduc Léopold Guillaume de Habsbourg. Ce n'est pas, loin de là, le représentant le plus connu de cette illustre famille, et je vais donc vous le présenter. Léopold Guillaume est né en 1614, c'est le petit dernier de celui qui va devenir l'empereur Ferdinand II et de son épouse Marie-Anne de Bavière. En tant que dernier fils, élevé chez les jésuites, il est destiné dès l'enfance à la carrière ecclésiastique. Et justement, il devient à 12 ans évêque de Passau et un peu plus tard évêque de Strasbourg et d'autres villes encore. Il est amené ensuite à participer à la guerre de 30 ans comme chef militaire. Puis, en 1647, il est nommé gouverneur des Pays-Bas du Sud. Il se retrouve en résidence à Bruxelles. C'est alors à ta torbidive, qui commence le stegnato. Orgoglioso alle stelle sen va, ma quando il fato arride si vince ogni periglio e si deride. Ma quando il fato arride si vince ogni periglio, si vince ogni periglio e si deride. Léopold Guillaume de Habsbourg était sans doute tout petit la première fois qu'il a assisté à un opéra. Il a 4 ans en 1618 lorsque les premiers opéras arrivent en Autriche. Les opéras, un genre de spectacle tout nouveau et qui fait fureur chez les plus riches souverains européens. Dès qu'on organise un mariage un peu fastueux, on propose un opéra aux invités pour montrer qu'on a de quoi épater la galerie. Le jeune Léopold Guillaume a donc sans doute plus d'une occasion d'en entendre. Et ça lui plaît.
Che son le gioie, peno più fallaci, fan così l'alme sagaci, che son le gioie, peno più fallaci.
En 1647, Léopold Guillaume de Habsbourg arrive donc à Bruxelles comme gouverneur. Il y a déjà sur place des musiciens et l'archiduc en fait venir de nouveau en plus. Des Italiens, comme c'est la mode, et aussi des Allemands, des Tchèques, des Polonais, etc. Des musiciens qu'il paye bien. Le maître de musique de la chambre est Giuseppe Zamponi. Zamponi a sous sa direction une vingtaine de musiciens. Parfois, son ensemble se réunit avec ceux de la chapelle pour les grandes occasions. Et puis l'archiduc aime bien engager des virtuoses de passage pour entendre ce qui se fait de mieux dans le domaine instrumental. Bref, si vous passez par le palais du Kudenberg vers 1650, vous êtes sûr d'entendre de la bonne musique. Donc, Léopold Guillaume a un goût très sûr. Or, figurez-vous qu'en 1649, son souverain Philippe IV d'Espagne épouse en secondes noces Marie-Anne d'Autriche, sa nièce. Pour célébrer cette union, qui a lieu à environ 1500 km de là et à laquelle il n'assiste pas, il faut un événement hors compétition. Et, redonc, quoi de plus fastueux et grandiose qu'un opéra ? Pour Léopold Guillaume, c'est non seulement honorer son roi de belle manière, mais c'est aussi se faire à lui-même un immense plaisir, dont l'occasion risque de ne pas se présenter souvent. Heureux donc, c'est parti, il passe commande. Pour faire représenter l'opéra de ses rêves, l'archiduc Léopold Guillaume, gouverneur des Pays-Bas du Sud, a tout fait comme il faut. Il a choisi comme sujet, je n'ai pas la confirmation absolue que c'est lui qui a choisi, mais ça paraît très vraisemblable, un épisode de l'Odyssée, Ulysse s'arrêtant sur l'île de la magicienne Circé. Pendant les entr'actes est prévu en plus un grand ballet, le Ballet du Monde, découpé en 5 épisodes qui font danser les peuples du monde entier. L'archiduc a engagé un célèbre chorégraphe italien, Giovan Battista Balbi, qui a déjà montré ses talents dans plusieurs cours européennes, et notamment celle du tout jeune roi Louis XIV. Vers le mois d'avril 1649, Balbi fait le voyage d'Italie pour recruter ceux qui vont créer le spectacle. Il ramène un metteur en scène, Giovan Battista Angelini, qui se chargera de préparer les nombreuses machines destinées à faire apparaître et disparaître les personnages, et un poète, Ascanio Amalteo, qui se chargera des livrets. Un Bernardino Grassi fera la musique du ballet, aujourd'hui perdu, et c'est Giuseppe Zamponi qui composera celle de l'opéra.
Sarebbe conforme al tuo desio che ti direbbe sempre me.
On ne sait pas ce qu'a fait Giuseppe Zamponi entre 1642, qui marque la fin de son service auprès d'un cardinal à Rome, et 1647, où on le retrouve à Bruxelles, maître de musique de Léopold Guillaume, le gouverneur des Pays-Bas du Sud. Mais il est fort possible que Zamponi ait passé du temps à Venise, où il aurait entendu les opéras de Monteverdi et de Cavalli. En tout cas, son Ulysse à l'île de Circé présente moult caractéristiques de l'opéra vénitien de cette époque. L'alternance de passages presque parlés, les récitatifs et d'airs beaucoup plus chantés, la présence de personnages de comédie, comme une nourrice, et même un duo d'amour.
Ma senza mercè t'adoro, ma senza mercè, mio cuore che brami, mio cuore che brami, che mami,
tua serva sei tu,
signora sei tu, adori.
Ce duo d'amour, qui fait penser au dernier duo entre Popée et Néron dans le couronnement de Popée de Monteverdi, met en scène les deux personnages du titre de l'opéra de Giuseppe Zamponi, Circé et Ulysse. Ulysse a débarqué dans l'île de Circé et, s'étonnant que les hommes qu'il avait envoyés en éclaireur ne reviennent pas, il a appris qu'ils avaient été changés en statue de pierre par la magicienne. Mercure, sous la forme d'un berger, lui a dit comment déjouer le plan de Circé pour le pétrifier à son tour. Ulysse a réussi, mais il a succombé au charme féminin de la magicienne et réciproquement. À la fin du premier acte, après ce duo d'amour, il est violemment interpellé par Satirio. Le doux sentiment que tu as dans le cœur et que tu appelles amour t'a privé d'intelligence, t'a changé en marbre et en animal, de sorte que tu es digne des plantes. Une fois réunis tous les protagonistes qui vont faire naître l'opéra Ulysse dans l'île de Circé, le librettiste, le compositeur, le chorégraphe, le metteur en scène et en machine, les musiciens et chanteurs, reste encore à tout écrire, à construire et à répéter. Il faudra pas moins de 40 jours de répétition.
chi siete, alme dolenti?
Sian tuoi guerrier, sian quelli dell'orme tue sagaci, si fini e si costanti, che ne gravi perili nelle morti furon già mai bastanti a ritrarci da più funeste sorti. Sicora siam cangiati in freddi marmi, forse la stella rigida importuna ch'al valore nemica la fortuna.
Le jour très attendu de la première représentation d'opéra de tous les temps à Bruxelles, à la cour du gouverneur Léopold Guillaume, arrive enfin le 24 février 1650. C'est la première fois que les membres de la cour vont assister à ce genre de spectacle. Et leur hôte a magnifiquement fait les choses. Tous les éléments contribuent au succès général. La musique et les musiciens, la danse et les danseurs, les décors et les machines qui donnent un cachet de merveilleux à l'ensemble. Le journal « Les relations véritables » déclare que tout a réussi au contentement et admiration indicible des spectateurs.
La forza di virtù rompe ogni laccio. L'alma l'imprese e la vittoria pezza, quella d'amor o nulla o poca prezza. A noi lacci d'amore si fine tempre, e se leva non correrà per sempre.
Ci s'arma di virtù sua e voglia abbatte, e sempre in vitto con amor combatte.
Contro l'ardor possente del mio figlio, armi virtù non ha.
Rosa si vedrà, farò perché da te folga un bello pie, chi tra laggi è di beltà.
Il est certain que le spectacle de ce premier opéra donné à Bruxelles stupéfie les spectateurs. L'archiduc, le premier, veut le revoir. Quant à ceux qui ne l'ont pas vu, ils réclament une autre représentation. C'est pourquoi le journal Les Relations Véritables signale que l'opéra est redonné avec un plus grand concours de seigneurs, de dames et autres que la première fois, personne ne pouvant se lasser ni assez voir une si rare merveille et un spectacle le plus accompli et le plus agréable qui se peut jamais faire en ce genre. On peut imaginer que le succès d'Ulysse à l'île de Circé de Zamboni pour lequel Léopold Guillaume de Habsbourg avait si bien fait les choses, a fait du bruit dans les cours d'Europe. Il est probable que le roi Philippe IV d'Espagne, en l'honneur de qui l'opéra a été donné, en a conçu, de loin, une légitime fierté. Mais d'autres que lui en étaient informés aussi. Par exemple, la reine Christine de Suède, qui, après son abdication, passe par Bruxelles en 1655 et demande à voir l'ouvrage. Pour elle, et certainement aussi pour lui-même, Léopold Guillaume fait remonter son théâtre et dépense à nouveau des sommes folles pour de nouvelles représentations.
Pour toi, guerrière, que dans la chivestelle, rapido, pour séduire les pupilles, con rimprovero eterno, non se ni toi dit. Si oscura delle lascive al scorno dal suo guerriero esilio faccia faccia Ulisse ritorno alla sposa alla patria al trono al figlio.
À la fin de l'opéra de Zamponi, Ulysse à l'île de Circé, Jupiter en personne vient rendre hommage au roi d'Espagne et à son épouse. Du grand Philippe et de la noble demoiselle, unis par une Hyménée généreuse, tirera origine un germe plus important au monde que celui d'Alexandre. Je prévois que d'un plus grand Philippe naîtra un plus grand Alexandre. On le verra, saint de laurier, planter les glorieuses palmes partout où il extirpera les plantes ennemies. Tout est bien qui finit bien pour Ulysse, qui va quitter l'île de Circé et retourner voir sa Pénélope. En revanche, jusqu'à il y a peu, le pauvre Zamponi a été complètement oublié. Vous m'accorderez, j'espère, que son opéra valait bien une résurrection. Cœur final de l'opéra de Giuseppe Zamponi, Ulisse all'Isola di Circe, Ulysse à l'île de Circé. La Capella Mediterranea, les solistes du chœur de chambre de Namur, l'ensemble Clématis, tous placés sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón. Le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Jean-Louis Deloncle pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.